9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran est ravi de vous accueillir pour une petite heure de droit. Et oui, quel que soit le temps, mon camarade Philippe Robichon et moi-même sommes présents car le froid ne nous fait pas peur. Et je connais votre secret, mon cher Philippe, pour résister au froid. Secret que vous avez bien voulu me confier, que je ne révélerai pas à l'antenne et qui consiste à mettre, et vous me l'avez dit à plusieurs reprises, deux slibards en peau de mouton. Quand je pense que des moutons sont de bas uniquement pour vos slibards, ça je crois que c'est pas écolo, mon cher Philippe. Car il est établi que le froid a pour conséquence d'anesthésier toutes les extrémités du corps, y compris et surtout celle à laquelle vous pensez. Alors, je vous laisse imaginer l'état de mes burnes dans la mesure où moi je ne porte jamais de slibard, c'est un principe, mais vous avez eu la gentillesse de m'offrir un chocolat chaud pour que mon corps se réchauffe. Mais laissons ces considérations climatiques de côté et évoquons, comme la tradition le veut, l'actualité de la semaine et notamment ce match entre le Maroc et la France. Bordel, j'y ai cru. Et puis, le Maroc aurait mérité de se qualifier au sein d'un autre pays arabe. Ça aurait été le kiff absolu. On avait pourtant un stade complètement rouge couleur du maillot marocain. Un Maroc qui avait des supporters de tous les pays arabes, des supporters de toute l'Afrique. Enfin, de toute l'Afrique, étant rancunier pour des considérations que je ne développerai pas, j'ai écarté de facto les supporters camerounais. Et puis, certains joueurs m'ont fait plaisir, notamment lors de la rencontre avec le Portugal. On a vu des joueurs marocains danser sur le terrain avec leur maman. Ça change. D'habitude, on voit les footballeurs avec leurs femmes complètement refaites. Et là, on a vu des mamans, djellaba. Et rien que pour ça, bravo les gars. Bon. Le mondial se termine bientôt, on peut déjà faire un bilan. Vous avez les boules, hein, les mauvaises langues. Hein. Vous n'avez cessé d'appeler au boycott et il semblerait que TF1 ait battu son record d'audience pour France-Maroc avec presque 21 millions de téléspectateurs. Ouh, bravo, ça c'est du boycott. Vous avez la haine tout simplement parce que c'est un pays arabe qui a organisé probablement la plus belle des Coupes du Monde. D'ailleurs, chose extraordinaire, selon les conclusions du rapport du chef de la police britannique, aucun supporter anglais n'a été arrêté. C'est la première fois, c'est dire l'organisation de cette Coupe du Monde. C'est un sans faute pour le Qatar. N'en déplaise en particulier aux chaînes d'info quelque peu racistes. Et puis, passons, comme on dirait, du coq à l'âne. Encore que vous verrez, il y a un point commun entre les deux sujets, la réhabilitation de monsieur Farid El Haïry, qui, alors âgé de 17 ans, avait été accusé par une lycéenne de 15 ans de viol et d'agression sexuelle, condamné en 2003 par la cour d'assises des mineurs à 5 ans d'emprisonnement. Et 15 ans plus tard, on est en 2017, la demoiselle écrit au procureur pour avouer qu'elle avait inventé cette histoire et qu'elle avait été victime d'inceste de la part de son frère aîné. Et il est là le point commun. Farid El Haïry est un arabe et le procès a été tout simplement bâclé. Alors, que vous soyez arabe ou pas, appelez le 01 53 48 3000, émission sous le contrôle de celui qui porte des slips en peau de mouton et en peau de yak, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.
Tout est dit.
Presque. Et j'en garde jusqu'à 10h, Maître Serran. Oui, merci d'être là. J'ai négocié avec votre agent. Vous ne deviez pas être là. Et voilà, vous êtes là aujourd'hui.
Bah oui, mais en même temps. Hein. Vous m'avez promis quoi? Un salaire exorbitant.
Oui, vous allez avoir votre prime et une note de chocolat pour vos étrennes.
Prime de chocolat.
Prime en chocolat, oui.
Prime en chocolat.
Mais c'est bien, hein.
D'accord. Et un truc qui s'appelle les euros, ça vous parle pas au sein de cette radio?
Les euros en chocolat.
C'est vrai qu'avant, je sais pas, il y en a encore des pièces en chocolat.
Vous souvenez? Ouais, c'est une espèce de grosse pièce avec l'emballage qui était compliqué à enlever.
Exactement. Il y avait ça. Il y avait aussi les cigarettes en chocolat. On voyait ça un peu partout. On est donc manifestement de la même génération.
Ouais, on a eu ça, mais non. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, Maître Serran.
On est d'accord.
Je vais me renseigner. Le gars, là, est-ce qu'il va obtenir un dédommagement? Parce qu'il a quand même fait un an de prison, non, de mémoire?
Alors, il a fait...
Je crois qu'il a fait
oui,
un
oui,
an
oui,
prison,
il a fait un an de prison ferme.
Ouais.
Plus, évidemment, comme dirait l'autre, vous êtes marqué au fer rouge avec ce genre de situation.
Est-ce que vous pouvez obtenir un dédommagement?
Bien sûr, il va se retourner contre l'intéressé pour dénonciation calomnieuse. Donc, à partir de là, donc, il va obtenir un dédommagement. Dans l'hypothèse où cette demoiselle ne serait pas solvable, c'est l'État qui prendra la relève et ensuite l'État se retournera contre cette demoiselle. Mais il peut, et je crois qu'il a annoncé, hein, il va se retourner contre cette demoiselle, légitimement évidemment. Parce que quand vous êtes, bon, on vous accuse de vol, c'est pas joli, mais c'est qu'un vol. Mais quand vous êtes accusé de viol, d'agression sexuelle, il y a ce côté, entre guillemets, dégueulasse de la situation. Donc ça, oui, ça doit vous marquer. Et puis, 17 ans, c'est un gamin. Donc quand tout ça vous tombe sur la tête. Et c'est terrible, mais il le précisait, c'est-à-dire que, et je mettais en avant cet aspect-là, c'est-à-dire que quand vous appelez Farid, en tout cas, à l'époque, alors aujourd'hui, il y a peut-être encore un reliquat de tout ça, mais à l'époque, s'appeler Farid et être poursuivi pour viol, et ben, on considérait que de facto, c'était Farid et personne d'autre. Alors que déjà, à l'époque, il y avait des éléments qui laissaient entendre que la situation n'était pas aussi évidente. Et voilà, c'est le côté Farid qui fait que ce jeune homme, en tout cas de l'époque, a subi. Donc oui, c'est tant mieux. Qu'il y ait une révision du procès, puisque ça arrive, je crois qu'on en est depuis 1945, c'est la 12e fois, donc c'est hyper exceptionnel. Et il pourra, si tant est que ça puisse réparer quelque chose, il pourra évidemment se retourner contre l'intéressé.
Bien, Maître Serran, vous savez que nous sommes passés dans cette période de sobriété énergétique. Je voudrais savoir si un salarié peut prétexter qu'il fait trop froid dans les bureaux, en tout cas sur son lieu de travail, pour ne pas aller travailler.
Alors, c'est... vous avez raison, puisqu'on n'a pas arrêté de
nous... Faut-il, qui réalise cette émission, est tout à fait d'accord, parce que c'est vrai qu'il fait beaucoup plus frais, depuis quelques jours.
Il fait beaucoup plus frais, mais je vois que Faut-il est quand même, en tout cas, habillé chaudement. Là.
Ah ben, on est tous avec bonnet, là.
Ouais. Mais... oui, alors le on n'a pas arrêté entre guillemets de nous bassiner avec les nouvelles mesures. D'abord en nous demandant de baisser un peu le chauffage. Bon, et on est maintenant à 19 degrés. On nous invite à pas aller au-delà, mais ça concernerait essentiellement et surtout les personnes qui évidemment travaillent à l'extérieur, parce que même si au sein des bureaux on peut se sentir un peu frileux. Il suffirait voilà de s'habiller un peu plus chaudement. Et d'ailleurs, vous l'avez probablement vu, on a des sociétés maintenant qui ont acheté un certain nombre de pulls à distribuer à leurs salariés en contrepartie du chauffage baissé. Bon, dans ce pays, on en est là. Je trouve ça un peu triste, mais pourquoi pas. Mais
c'est vrai. Que dit le code du travail? Est-ce qu'il y a une température, minimale pour travailler?
Alors, le code du travail ne se prononce pas là-dessus. Mais légitimement, parce que vous n'avez peut-être pas la même sensibilité que moi au froid. Et donc, ça dépend aussi du corps des uns et des autres. Ça dépend aussi du lieu où vous travaillez. Quelqu'un qui travaillerait en altitude, quelqu'un qui travaillerait dans un lieu où il y a une certaine humidité. Donc, c'est vrai que c'est tout relatif. Donc, le code du travail ne se prononce pas là-dessus. On a un certain nombre de textes, mais qui relèvent pas du code du travail. Et c'est par étapes, c'est-à-dire que qu'on considère en fait que j'allais dire plus il fait froid, alors quand on est entre 5 degrés et 8 degrés, donc on considère que de facto vos mouvements ne sont pas aussi alertes que d'habitude, et on va imposer, il y a une obligation de sécurité, ça c'est d'abord un principe pour toutes les sociétés, pour tous les employeurs, il y a une obligation de sécurité à l'égard de vos salariés, donc on va imposer au patron d'organiser le travail en fonction de ça. Alors organiser le travail en fonction de ça, mais ce que je vous dis là peut aussi valoir quand la France a connu les grosses chaleurs et quand vous travaillez à l'extérieur, c'est-à-dire que on va scinder, la durée du travail. Donc, on va faire en sorte que vous ne puissiez pas travailler non-stop. Il y a des pauses, évidemment, des pauses pour vous réchauffer. Donc, on doit vous mettre dans un lieu où, pareil, l'employeur doit faire en sorte que ce lieu soit quand même chauffé. Il y a des équipements particuliers, des chaussures particulières qui doivent être également fournies par l'employeur. Donc, on doit prendre tout ça en considération, mais il est certain que le code du travail, lui, ne dit pas à 12 degrés, à 10 degrés, il faut arrêter de travailler. Donc, ça va être en fonction du ressenti des uns et des autres. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que la société fait ce qu'elle veut en disant le code du travail ne prévoit rien. Je l'ai dit et je le répète, il ne faut pas oublier qu'il y a une obligation de sécurité de la part de l'employeur, et l'employeur a évidemment tout intérêt à faire en sorte que ses salariés se portent bien physiquement, puisque s'il devait y avoir un accident de travail alors que le salarié aurait pu avertir le patron en disant faut faire attention puisque là on peut pas travailler compte tenu de la situation, et je le redis, quand on est à l'extérieur ou quand on travaille et vous touchez du métal, forcément quand il fait froid c'est pire que tout. Donc quand il y a une alerte qui est faite par le salarié, et ça c'est important, c'est-à-dire que quand le salarié a l'impression qu'il pourra pas tenir, il faut qu'il y ait cette alerte, c'est-à-dire faut pas attendre qu'il y ait l'accident de travail. Donc il faut quand même établir, prouver, démontrer qu'il a informé son patron, qu'il a informé le syndicat, qu'il a informé l'inspection du travail, ça aussi c'est important. Et si malgré ces alertes, pour une raison lambda, vous tombez sur le patron le plus pénible du monde qui vous demande quand même de travailler sans faire en sorte que vous soyez, on va mettre des gros guillemets, bien, en tout cas protégé pour ce travail, si demain, évidemment, il devait vous arriver quelque chose, c'est de la responsabilité du patron. Mais vous avez ce qu'on appelle un droit de retrait. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus attendre le feu vert du patron. C'est-à-dire que si vraiment les conditions, en tout cas vous ressentez que les conditions ne sont pas supportables, vous pouvez mettre en avant votre droit de retrait, puisque vous
engagez. C'est quoi un droit de retrait, maître?
Le droit de retrait, c'est entre guillemets simplement dire au patron que moi je considère que les conditions de sécurité pour travailler ne sont pas réunies. À partir du moment où je considère que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, j'arrête de travailler. Faut évidemment le notifier au patron, mais le droit de retrait signifie que vous arrêtez de travailler, mais vous continuez d'être payé. C'est-à-dire qu'après,
oui, c'est pas
voilà, c'est-à-dire que vous partez pas en disant bah qui part
pas en absence.
Voilà, non, le droit de retrait, c'est dire moi je j'engage ma santé. Et c'est un droit de retrait qui vaut également quand on a connu ces périodes de chaleur. Donc à partir du moment où vous sentez que votre qu'il y a un problème qui concerne votre physique et un problème de santé, vous pouvez vous retirer, le notifier évidemment au patron. Après c'est une histoire de d'intelligence aussi du patron. Moi je pars du principe que le salarié ne met pas en avant son droit de retrait juste, pardon pour le terme, pour embêter son patron. Je veux dire, s'il le fait, c'est qu'il y a véritablement des conditions climatiques qui le permettent, et ce sont des conditions climatiques qui peuvent être observées par les uns et les autres. Donc un patron intelligent est quand même un patron qui fait en sorte de prendre soin de ses salariés. Il y a que comme ça qu'on peut aussi travailler et être motivé au sein d'une société. Donc les salariés ne doivent pas hésiter, encore une fois, d'abord à demander des équipements si les équipements ne sont pas réunis, et puis encore une fois à mettre en avant leur droit de retrait. Mais vous savez ce qui est terrible, alors pardon, j'avais juste pour deux secondes, ça concerne beaucoup les boulots à l'extérieur et dans le bâtiment notamment, sauf que dans le bâtiment on sait qu'il y a aussi beaucoup de personnes en situation irrégulière, et il est certain que ce que je suis en train de dire ne vaut malheureusement que pour les personnes déclarées avec un contrat de travail. Et puis, quand vous êtes en situation irrégulière, votre droit de retrait, évidemment, est par définition inexistant.
Il y a les personnes qui sont dans les lieux de passage, hein. Vous savez, les personnes qui sont à l'accueil, souvent dans des halls où la porte s'ouvre et se referme en permanence. Quand il fait froid, subitement, elles sont en plein courant d'air. ces personnes. Comment est-ce qu'on peut justement appréhender cette situation ?
Mais encore une fois, il y a toujours la possibilité de modifier les locaux. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une sorte de paravent transparent, c'est-à-dire qu'on voit quand même la personne, mais ça peut aussi la protéger. On peut aussi déplacer son bureau. Donc il y a encore une fois, c'est pas il n'y a pas un texte de loi qui dit que. Après, c'est le bon sens. Et vous avez raison. C'est-à-dire que quand vous êtes au niveau de l'accueil et toutes les 30 secondes, quelqu'un pousse une porte ou alors les portes s'ouvrent.
La porte s'ouvre. Voilà. -5 dehors et vous êtes dans un couloir.
On est entièrement d'accord. Mais là encore, c'est-à-dire que ça peut arriver la première fois. Après, au bout d'un moment, on se dit peut-être que si je décale le bureau, si je m'organise autrement, ce serait quand même plus agréable pour la personne qui est en face de cette porte. Mais même chose, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où vous tombez sur le patron de pénible de service qui veut pas faire cet effort, ce qu'il peut faire ou ce que vous pouvez exiger de lui, c'est un radiateur supplémentaire. Mais voyez, on est dans le bricolage. Oui. Ouais, on est dans le bricolage, donc c'est pas extraordinaire non plus.
Oui, en ce moment, avec toutes les mesures de restriction, c'est vrai que le radiateur, on va peut-être pas vous le donner, parce qu'en fait, vous vous retrouvez qu'un radiateur que vous mettez à fond dans un couloir de courant d'air, ça chauffe rien. Hein.
Non, mais on a entendu des politiques, justement, quand on les interrogeait sur ces restrictions données aux sociétés, en disant, vous allez réduire le chauffage, et puis certains ont répondu, mais vous pouvez demander à votre patron, un petit radiateur. Donc on marche sur la tête, ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, autant chauffer correctement les locaux.
Et ça bouffe encore plus d'électricité.
Mais bien sûr, c'est ça qui est un peu dingue. C'est pour ça, j'ai du mal à comprendre entre guillemets cette nouvelle, on va dire, et puis ça va être de manière pérenne maintenant, nouvelle politique énergétique.
Maître Serran répondra à vos questions dans un instant. Il est bien chauffé aujourd'hui.
Hein. C'est vrai.
On est facile à 17 hein, aujourd'hui.
17 ?
Ouais, on est bien.
Oui, il fait bon.
On est bien, à 17. 01 53 48 3000, c'est l'imam qui aura froid, parce qu'il est un peu frileux, l'imam.
Ouais, mais il n'y a pas de slip. Et l'ange est là-bas.
On vérifiera tout à l'heure. 01 53 48 3000. Enfin, quand je dis on vérifiera, on l'interrogera.
Serran, hein,
vous
me rassurez.
Vous avancez, mais c'est toujours mieux de vérifier auprès des personnes concernées. Imam Abdelali Mahmoud. Donc, on vous attend pour votre vérification d'usage.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Avec Maître Serran, c'est peut-être la dernière de l'année, Maître Serran, là, parce que vous partez en vacances, là, tout à l'heure.
Oui, absolument. c'est peut-être la dernière de l'année,
ouais. Vous, sinon, il y a le 31.
Moi, je serai là, Inch'Allah.
Je peux vous faire venir le 31.
Ah, écoutez.
Bien. Alors, on a Sofiane qui est avec nous et qui attend au 01 53 48 3000. Sofiane, bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Sofiane.
Bonjour, maître Serran. Bonjour à lui-même aussi. Donc, maître Serran, j'ai une petite question, s'il vous plaît.
Dites-moi.
Il y a 6 mois à peu près, la préfecture a décidé de me retirer mon titre de séjour suite à des soupçons de fraude.
Alors, quel type de fraude, monsieur ?
Il soupçonne un faux mariage, en fait.
D'accord. Donc, un mariage gris ?
Un mariage blanc.
Blanc ?
Ah. Ouais, c'est ça,
plus lourd, mariage. D'accord.
Ouais, et du coup, ils ont décidé de me le retirer et on a porté ça au tribunal administratif, de Montreux. Et le tribunal a suspendu, en fait, le retrait.
D'accord.
Je n'avais pas de preuves. Voilà. Et du coup, j'aimerais savoir si moi, le titre, je l'ai toujours fait. C'est un certificat de résidence, ça ne fait rien.
D'accord.
Et du coup, j'aimerais savoir si je peux toujours voyager avec le type de séjour.
Alors, il faudrait quand même, parce que tout dépend précisément de ce que dit le tribunal. Parfois, quand on suspend une décision, on invite les autorités préfectorales à réexaminer le dossier. Ouais, ça veut dire que, vous l'avez dit très justement, le tribunal peut considérer que peut-être que la préfecture a eu la main un peu lourde, donc on lui demande de réexaminer le dossier. Et puis parfois, c'est une décision définitive, c'est-à-dire qu'on considère que la préfecture s'est complètement plantée. Donc, il faudrait lire correctement cette décision. La différence, ce serait quoi ? Si le tribunal considère que La préfecture doit réexaminer le dossier. Vous allez être à nouveau reconvoqué par les autorités préfectorales et puis ils vont à nouveau se prononcer. Si le tribunal considère que la préfecture s'est plantée totalement et que la décision est annulée, dans ce cas-là, vous récupérez votre titre de séjour. Mais j'ai bien compris que vous ne l'avez pas restitué physiquement, oui. Donc il est toujours avec vous, ce document.
Exactement.
Oui. Donc il faudrait quand même... Il faut savoir d'abord que quand le tribunal rend une décision, la préfecture reçoit un exemplaire de cette décision, mais à charge pour vous, n'attendez pas que la préfecture revienne vers vous, a priori elle ne le fera pas, à charge pour vous...
Ils sont revenus vers
moi. Ah, bah alors c'est tant mieux, donc ils vous ont dit quoi ?
Ils m'ont convoqué pour aller sur place, j'y ai été.
Ouais. Donc,
normalement, ils devaient mettre une APS, une autorisation provisoire.
Ouais.
Comme j'ai pas restitué comme ils m'ont pas repris le titre de séjour, ils m'ont dit ça sert à rien. Donc vous gardez votre titre de séjour et normalement vous pouvez voyager avec, mais avec l'ordonnance du juge en fait.
Bah le truc c'est que s'ils tiennent ce discours-là, d'abord c'est tant mieux, ça vous évite de refaire mille et une procédures. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on vous dit conservez votre titre, vous pouvez voyager avec, mais avec l'ordonnance du juge. C'est l'autorité préfectorale qui alerte. Éventuellement toutes les administrations et notamment les douanes pour dire ce titre est activé ou désactivé. Donc c'est quand même embêtant de passer une frontière et de se faire peut-être interpeller. Alors il y aura des vérifications, on finira par vous laisser tranquille, mais voyez, il y a quand même cet aspect-là. Donc je suis assez surpris surpris parce qu'ils ont été diligents, donc ils ont fait une bonne chose de vous convoquer rapidement, mais surpris par la réponse qu'il vous a apportée. Maintenant, ils ont raison. La décision, il va falloir la conserver si vous passez les frontières. Il n'y a que ça qui pourrait faire en sorte, si sur un plan informatique, il y a toujours cette alerte vous concernant, il n'y a que ça qui ferait en sorte qu'on finirait par vous laisser tranquille.
Donc à chaque fois que je voyage, je dois...
Monsieur, en principe, encore une fois... Je le redis, c'est pas à chaque fois qu'on voyage. Si la décision est claire et dit, moi j'annule la décision des autorités préfectorales.
C'est une suspension.
Dans ce cas-là, il n'y a pas normalement à voyager avec ce document. C'est-à-dire, vous n'avez pas à chaque fois à prouver que vous avez obtenu gain de cause. Après, c'est sur informatique. Vous voyez, quand les autorités préfectorales veulent lancer une alerte et désactiver un titre de séjour, ils le font à distance. Et ben là, c'est pareil. Quand on considère que la préfecture a perdu et qu'elle est invitée par le tribunal à vous rendre votre titre de séjour, alors sur un plan, on va dire, informatique, et ben voilà, il y a une manipulation qui fait que vous pouvez passer toutes les frontières du monde. Ouais. Et on va considérer qu'il n'y a pas de difficulté. Donc, on n'a pas en principe à vous demander systématiquement votre document. Maintenant, pour éviter les embêtements, peut-être que, je veux dire, pour le premier test, gardez quand même la décision du juge. Après, si vous voyez que ça passe la première fois et qu'on ne vient pas vous taquiner sur cet aspect-là, on peut considérer que vous avez définitivement récupéré votre titre.
Très bien, ça marche. Merci beaucoup, maître. Et une petite question sur à ce sujet-là. En fait, ils ont été condamnés aussi à me verser 1000 euros, mais je ne les ai jamais reçus, en fait.
Alors, le tribunal joue son rôle jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand il considère que quelqu'un doit se défendre, doit faire appel à un avocat, ça engendre des frais. Et effectivement, les tribunaux, quand ils condamnent la préfecture, c'est-à-dire que quand on considère que la décision prise par la préfecture est injuste, on va sanctionner la préfecture et condamner cette préfecture à vous rembourser une partie de vos frais. Dans ce cas-là, monsieur, vous devez envoyer, même si les autorités préfectorales vous ont convoqué, mais envoyer en recommandé AR votre jugement accompagné de votre RIB.
Oui, je l'ai fait.
Mais ça a été fait il y a combien de temps ?
Il y a 3 mois à peu près.
Bon, alors c'est vrai qu'ils sont pas toujours diligents. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est-à-dire que, et vous pouvez le faire parce que ça fait quand même 3 mois, si vous avez l'impression que la préfecture, entre guillemets, joue au chat et à la souris et puis ne vous rembourse pas une partie des frais, vous avez la possibilité de ressaisir, mais juste une lettre recommandée au président qui a rendu la décision. Vous verrez, hein, il y a son nom qui apparaît sur le jugement. Vous lui envoyez simplement un courrier pour lui dire vous avez condamné la préfecture à me rembourser 1 000 euros. Ça n'a toujours pas été fait. Et c'est ce président-là qui assure, entre guillemets, le suivi des dossiers. C'est-à-dire qui vérifie que la préfecture a bien respecté le rendu de la décision. Donc vous pouvez écrire directement à ce magistrat.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci Sofiane pour votre appel.
À vous. Merci.
Au revoir. Nous avons Habiba qui est avec nous au 01 53 48 3000. Habiba, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour maître.
Bonjour Habiba.
J'avais une question pour ma mère, en fait, parce qu'elle avait été renversée par une voiture sur un passage piéton. Elle n'a pas déposé plainte et pensait que du fait qu'elle était piéton, elle était protégée. Mais au final, elle n'a pas obtenu grand-chose de l'assurance. Et elle ne voulait pas engager de procédure contre la personne parce que, bon, elle n'a pas, c'est un accident, elle n'a pas vu dans le noir. Et du coup, elle a toujours des douleurs suite à cet accident. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'engager quelque chose ou pas?
Après, alors d'abord, il faut savoir que quand on a des douleurs à la suite d'un accident, encore faut-il être certain que ces douleurs soient liées à cet accident. Vous voyez, alors ça peut sembler évident pour votre maman ou pour vous, mais vous avez bien compris que la partie adverse, ou en tout cas la compagnie d'assurance, la partie adverse, va s'intéresser au truc pour savoir est-ce que c'est lié à ça. Et pour savoir si c'est lié à ça, il y a qu'une procédure, c'est-à-dire que il va falloir solliciter éventuellement une expertise. Alors, soit vous considérez de facto que c'est lié et puis vous en parlez à votre compagnie d'assurance si vous êtes passé par son intermédiaire et puis votre compagnie d'assurance va mettre en cause la compagnie d'assurance de la personne qui était derrière le volant et à partir de là, ils peuvent décider, en tout cas les compagnies d'assurance peuvent décider une expertise qui sera pas une expertise judiciaire, c'est-à-dire c'est une expertise où on va vous désigner un médecin pour voir, entre guillemets, pour essayer de voir si ça peut se régler à l'amiable et si les douleurs de votre maman sont liées ou pas à cet accident. De deux choses l'une, si on considère que c'est lié à cet accident et si les compagnies d'assurance prennent ça en considération, il peut y avoir une indemnisation complémentaire. Si pour une raison lambda, les compagnies d'assurance disent bah non, pour nous c'est terminé, ce sera à charge pour vous, madame, de demander au président du tribunal de désigner un expert. Il faut savoir que cette expertise pourrait être à la charge de votre maman, et une expertise c'est quand même cher. Et voilà. Cet argent on le récupère si demain l'expert dit c'est lié effectivement à cet accident, c'est-à-dire qu'ensuite il y a entre guillemets un procès, une deuxième partie, et puis l'expertise peut être remboursée. Mais imaginez deux secondes que l'expert dise moi je considère que c'est pas lié à cet accident, tous les frais que vous aurez engagés seront pour votre poche, c'est-à-dire qu'il y a personne qui va les rembourser.
Et est-ce qu'elle peut se retourner contre le conducteur uniquement du fait qu'il l'a renversé?
Ça s'est passé il y a combien de temps?
Il y a plusieurs années.
Hein. C'est-à-dire?
5 ans.
Non, madame, il y a une prescription en la matière. Il y a une prescription. Et ce que vous me dites m'inquiète un peu. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'époque, on a considéré que votre maman était, comme on dit, consolidée. C'est-à-dire qu'on considère que ça ne peut ni s'aggraver ni s'améliorer. Donc on est à un instant T. Si on a considéré que ça s'est consolidé, et compte tenu du timing, donc on est sur l'aspect civil, il faudra démontrer que c'est lié à ça, mais de ce que vous me dites, c'est peu probable que les compagnies d'assurance jouent le jeu. Donc ce qui veut dire qu'a priori, votre maman ne pourrait éventuellement contester cet aspect-là qu'en sollicitant une expertise qui sera probablement à sa charge. Et un expert judiciaire, ça coûte des sous quand même. Hein.
D'accord, très bien, je vous remercie.
Merci à vous.
Merci Abiba pour votre question. Le temps d'une pause et vous appelez le standard de Beurre FM si vous voulez interroger, poser vos questions juridiques à Maître Serran, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec un numéro de téléphone, hein, celui du standard de Beurre FM pour interroger Maître Serran, 01 53 48 3000. Et Maître Serran, nous avons Nadia qui nous attend. Nadia, bienvenue.
Merci, bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Nadia.
Vous aimez le foot apparemment, hein, Maître Serran?
Bah oui, pas vous?
Oui.
Ah bon?
Moi.
Mais en plus, comme l'Algérie n'a pas été qualifiée, donc on remet, en tout cas, j'ai remis tous mes espoirs sur l'équipe du Maroc quand même.
Bah tout à fait,
c'est légitime.
Nos voisins. Vous savez que les jeunes là, de Marnia, ils ont été à la frontière pour les féliciter.
Ah bah écoute, voilà, j'ai vu ça et puis, enfin maintenant, je crois que tout le monde le sait, je suis de Razaouet, donc c'est pas loin de la frontière marocaine, donc effectivement...
Voilà, puis c'est une région de football voilà. En plus.
Et c'est voilà. Une région de football, et on est entièrement d'accord.
Nadia est de Marnia.
Bon. Voilà, en 1940, vous savez c'est qui a joué contre l'OM?
Dites-moi.
En 1940, qui a marqué 8 buts à 1.
8 à 1
Et c'est oui, qui contre les Marseillais.
Ouais. Non, dites-moi, je sais pas.
Le président Ben Bella.
Ah ouais, bah je le savais pas.
Ah si, ouais. Il a joué à mère, même mon mari.
Ouais.
L'Arhamo, il avait joué avec Louise.
C'est extraordinaire, ça. Alors,
ah oui,
ouais, c'est pour ça que j'aime bien ces appels. Ouais, on a
compris la petite chose comme ça. Ben, ils en ont ouais. Parlé à la télé, ils en ont parlé. Ils ont posé une question, et ben, je savais que c'était lui. C'était la bonne réponse. Ben mes frères, ils sont toujours dans le foot, hein. Tout le temps, déplacement en Allemagne et tout ça.
Ouais.
C'est vraiment, ils sont bien appliqués là-dedans.
Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir que l'équipe du Maroc aille aussi loin. Alors, il y a ce qu'on appelle la petite finale là, tout à l'heure, mais ça n'a pas la même saveur non plus, quoi.
Non, bon, pour une prochaine fois, Inch'Allah.
Eh ben, Inch'Allah.
Voilà. Mais maître, je voulais vous poser une question.
On vous écoute.
Alors, je voulais savoir combien de temps il fallait avant de l'échange du pièce, vous savez, entre avocats. Parce que moi, je voulais les remettre au dernier moment. Est-ce que je peux les remettre un mois avant?
Alors, d'abord, il ne faut jamais les remettre au dernier moment. Il y a ce qui s'appelle, dans n'importe quel procès, quelle que soit la nature du procès, on appelle ça le principe du contradictoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les documents que vous envisagez de présenter à un tribunal doivent être communiqués à la partie adverse dans un temps raisonnable. Donc, si, j'ai n'importe quoi, mais si votre audience, c'est lundi et que vous communiquez les pièces le vendredi, il y a un risque. Alors, il y a deux risques. Le risque, c'est que d'abord, l'avocat adverse peut demander le renvoi de l'affaire. En disant, voilà, on vient de recevoir des documents, j'ai pas pu les examiner avec mon client, donc, je demande le renvoi. Et on sait que les délais, quand il s'agit d'un renvoi, sont extrêmement longs. Et puis, l'autre risque, c'est que le tribunal dise non, moi je renvoie pas l'affaire, mais le juge ne va pas examiner vos pièces, il va les écarter des débats. Donc il faut quand même...
C'est ce que m'a dit mon avocat, il a dit qu'il ne peut pas prendre compte.
Bien sûr, le juge peut dire, bah écoutez, vous avez eu tout le temps de communiquer les pièces... moi, j'en tiens pas compte. Alors, ce serait dommage si ce sont des pièces importantes pour votre procès. Ce serait dommage que le tribunal les écarte, c'est-à-dire qu'il va pas les examiner. Donc, il faut toujours communiquer les pièces à l'avance. Mais en règle générale, enfin pas en règle générale, tout le temps, le tribunal donne un calendrier à votre avocat en disant vous avez jusqu'à telle date pour me communiquer, enfin pour communiquer les pièces à la partie adverse.
Ah, d'accord, comme c'est une affaire hors norme, donc moi hier j'ai appelé la greffière et je lui ai dit l'enquêteur il devait être impartial. Elle m'a dit oui, il devait être neutre. Bon, j'ai dit vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, c'est une affaire hors norme et donc voilà, c'était compliqué. Donc voilà, je lui enverrai les pièces en temps voulu. Donc,
merci, oui, il faut les envoyer en temps et en heure.
Voilà, merci maître.
Bonne journée. Merci à vous Nadia. Allez, on va terminer avec Mohamed de Toulouse. Mohamed, vous avez 5 minutes. Est-ce que c'est bon pour vous?
Oui, bonjour. Bonjour,
bonjour Mohamed.
Bonjour, maître.
Bonjour, Mohamed.
Serana, oui, bonjour. En fait, je vais raconter brièvement ma situation, en fait. C'est que j'étais cadre dans une société de grande distribution. Et suite à ça, j'ai été agressé dans un magasin qui est très connu à Toulouse, et surtout dans un quartier très chaud à Toulouse, de Montauban, de Toulouse, pardon. Et du coup, j'ai reçu 4 coups de couteau suite à... J'ai stoppé un vol de 4 de chocolat. Et suite à ça, j'ai eu des séquelles importantes. J'ai eu un poumon perforé et un pneumothorax. J'ai eu des séquelles psychologiques importantes, hospitalisation en psychiatrie et à la suite de ça. Et comment je vais vous expliquer, je suis au prud'homme, je suis au pôle social. J'ai 3 avocats pour suivre mes dossiers. La question que je voulais vous poser, c'est la faute inexcusable. C'est avant ça, j'étais agressé souvent dans le magasin où j'ai déposé 10 plaintes. Avant l'agression, j'ai informé à multiples reprises par mail et par écrit à tous les ma hiérarchie, mes supérieurs hiérarchiques, qu'ils étaient au courant de la situation et qu'ils ont rien fait pour stopper. On peut pas dire stopper le vol ou stopper l'agression.
Non, mais prendre les mesures nécessaires peut-être.
Ils ont pris aucune mesure. Ouais. La lettre que j'ai reçue par mail, que un de mes supérieurs hiérarchiques a marqué que le gardiennage ne couvrait pas les ordres de gardiennage, ne couvrait pas les besoins du magasin. Et suite à ça, je suis toujours au pôle social pour faire reconnaître la faute inexcusable. Et la faute, en fait, le mois de l'agression, ils m'ont versé une prime de sécurité. Sauf que moi, j'ai jamais fait de la sécurité, j'ai jamais été agent de sécurité. Ils me poussaient à faire la sécurité, c'était avec des écrits. Et mon employeur, en fait, il était conscient du danger, mais il n'a pris aucune mesure nécessaire pour préserver mon état de santé psychique et physique suite à cette agression. Et après, j'ai eu une alerte RPS de la médecine de travail qui est écrit noir sur blanc qu'il y a eu aussi une aptitude suite à ça et que moi, je serais inapte suite à cet accident et en gros, il parler de leur management et leur comment ils géraient. Je peux dire le nom de la société, c'est Casino. Je travaille chez Leader Price, filiale de Casino. Mais j'ai l'avocat qui fait les nécessaires, mais la justice traîne à trancher parce que l'entreprise a été achetée par Aldi. Aldi, au lieu d'avoir des délégués de personnel, non, parce qu'ils mettaient chacun évité, ils mettaient chaque société indépendante et appartenant à un groupe, mais voilà, vous voyez ce qu'ils veulent faire, c'est que pour ne pas avoir des délégués de personnel, on était nombreux, j'étais amené à gérer 25 à 30 salariés, et du coup, c'était une obligation pour eux d'avoir des délégués de personnel. Ils n'ont rien fait de tout ça, et du coup, ça traîne, et ça a été racheté par Holding Sud-Ouest, qui est aussi appartient à Aldi, pour ne pas avoir des délégués ou un syndicat, mais ça bloque, et la faute inexcusable pour moi, il y a des traçabilités, et la justice ne peut pas te trancher tant que Aldi, parce que j'avais l'audience le 14 décembre, et ils n'ont rien fait, et ils ont dit qu'ils attendaient le retour, les écrits de Aldi, qui cherche pas à voler.
C'est un peu la question qu'on a évoquée avec l'auditrice précédente, c'est-à-dire que dans un procès, il y en a toujours un, par définition, qui veut aller vite et légitimement, et c'est vous, et c'est normal, et il est de l'intérêt de l'autre partie de faire traîner un maximum une affaire. Alors ça peut sembler immoral comme ça, mais ça fait partie de
la vie juridique.
De la vie juridique et judiciaire. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que la partie adverse va faire en sorte de traîner un grand maximum. Alors oui, ils vont demander des renvois. C'est aussi après à votre conseil. On peut aussi s'opposer à un renvoi, vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut dire, attendez, ils auraient pu répondre il y a bien longtemps, donc vous retenez l'affaire, mais c'est vrai que les magistrats ont tendance quand une partie adverse dit, attendez, je vais envoyer, on appelle ça des conclusions, c'est-à-dire les arguments, les écritures, je vais les envoyer, mais j'ai pas pu le faire pour l'instant, ou moi, avocat, je les ai d'abord envoyés à mon client, il faut qu'il les valide. Très souvent, le conseil de prud'homme ou le tribunal pour d'autres affaires renvoie l'affaire. Et comme les renvois se font, c'est pas à 15 jours, vous voyez, les dates sont assez lointaines.
C'est au mois de juillet prochain.
Voilà, donc c'est toujours dans l'intérêt de celui qui est poursuivi, mais ça fait aussi partie des stratégies. Alors parfois, le renvoi, il est de bonne foi, c'est-à-dire que votre client vous a pas répondu, donc vous pouvez pas vous répondre à la place de votre client, il vous fout son feu vert, donc vous pouvez demander un renvoi et c'est légitime. Mais parfois, c'est histoire, pardon pour le terme qui est pas joli, de dégoûter l'autre.
Pour le dégoûter, il leur faut.
Mohamed, on va être obligé d'arrêter cette émission puisque c'est la fin, mais vous pouvez prendre le numéro de téléphone de Maître Serran si vous avez de quoi D'accord. noter, Mohamed.
Oui, j'ai de quoi noter.
Alors, allez-y. Joignable au 06 62 58 D'accord. 59 64.
D'accord, parfait.
06 62 58 59 64.
Parfait. Je vous remercie de m'avoir accordé
Merci
de parler.
Merci à vous, Ahmed.
Et c'est un message aussi fort pour les entreprises qui exploitent leurs salariés pour des raisons qui respectent pas la loi française et droit du travail français. C'est un peu dommage et qu'ils respectent pas aussi leur en matière de responsabilité, de sécurité et de résultats le plus important. Je tiens à vous remercier en vous souhaitant un bon week-end.
Merci, Mohamed.
Et bonnes vacances,
Mohamed.
Pour maître. Bonnes vacances.
Merci bien.
Merci à vous.
À bientôt, Inch'Allah.
Au revoir. Merci, à bientôt. Merci.
L'imam Abdelalimam, on est arrivé. Vous aviez une question à poser, Maître Serran.
Salam alaikum, Maître Serran.
Salam alaikum.
Comment ça va?
Ça va, alhamdoulilah. On se posait la question.
Le Maroc.
Voilà. Quand même.
Bravo, Alik.
Bien sûr, évidemment.
On est tous derrière les Marocains ce soir pour qu'ils puissent
avoir
la petite finale.
Bah oui, déjà moi pour la petite Inch'Allah. Finale. Allez. Mais je crois que Philippe qui fait manifestement preuve de lâcheté suprême s'est interrogé pour savoir quand il fait froid et quand vous êtes en djellaba, mon ami l'imam, qu'est-ce que vous portez en dessous? Est-ce que vous avez un caleçon particulier?
Est-ce que vous avez un damar particulier
de chauffant ou
Justement, si c'est en dessous, c'est pour pas qu'on le voit.
Justement. C'est pas bête.
Ouais,
mais on n'avait pas pensé,
mais non. Mais moi,
c'est des pyjamas, en général. Mais c'est pas des pyjamas pour dormir, c'est des vêtements.
C'est des pyjamas, c'est pas des pyjamas.
C'est des sous-vêtements spéciaux, j'ai là-bas. Voilà.
Bon. D'accord.
Voilà. Ah, voilà, on a Maître Serran, comme ça, au ski. Ouais. Si vous allez au ski, vous pourrez avoir montré à l'imam les coordonnées.
Tu vas au ski. Il va au ski
Inch'Allah.
Je vais t'expliquer tout à l'heure comment on fait la prière au milieu de la neige.
Ah, au milieu de la neige.
Ouais. Vous expliquerez
avec
à tout le monde.
Tayammum.
Ouais, dépêchez-vous, maître, non pas maître Serran, imam Abdelali, puisque dans une minute, vous êtes à l'antenne.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.